Bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi Laflamme, votre animatrice, en compagnie de Jeanne Desrosiers, la co-animatrice de l'émission.
Bonjour!
Bonjour Jeanne! Donc aujourd'hui, on a une nouveauté à l'émission. En fait, Dans la mer climatique a grandi son équipe et donc on accueille une nouvelle collaboratrice, Sarah-Jeanne Vincent. Allô Sarah-Jeanne!
Bonjour!
Donc Sarah-Jeanne, tu vas nous accompagner là, pour la suite du projet. On te connaît d'abord puisque tu es étudiante à la maîtrise en sciences politiques, comme Jeanne et moi. Mais en fait, je vais te laisser te présenter, en fait. Et pour te connaître un peu, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive là, à embarquer dans le projet dans la mer climatique avec nous.
Oui, ben d'abord, merci pour l'invitation. En fait, j'ai un intérêt marqué pour la lutte au changement climatique, puis ça, surtout dans une perspective de justice. Donc, c'est vraiment important pour moi de profiter de mes connaissances pour les vulgariser, en fait, pour que la communauté étudiante soit plus au courant des enjeux majeurs de notre siècle.
Merci, Sarah-Jeanne. Donc, on est vraiment contente de t'accueillir parmi nous et on a très hâte là, de travailler et de collaborer avec toi pour la suite. Donc, je reviens sur le sujet principal de notre émission. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la filière batterie. Donc, c'est un sujet particulièrement d'actualité au Québec, notamment avec l'annonce du projet Northvolt qui a été fait au mois de septembre, qui est l'arrivée là, d'une entreprise suédoise qui va s'établir au Québec, qui se spécialise dans la fabrication de cellules de batteries pour des voitures électriques. Donc, c'est une des plus grosses annonces de l'automne là, de la part du gouvernement. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, justement. Et donc, on sait que le gouvernement mise beaucoup sur cette filière-là pour le développement économique de la province, mais aussi pour la transition énergétique. Et donc, le but aujourd'hui de l'émission, c'est un peu d'expliquer c'est quoi, en fait, la filière batterie, mais aussi de comprendre pourquoi on y accorde autant d'importance au Québec. Mais surtout, en fait, c'est de comprendre ses implications au niveau climatique et environnemental. Parce que quand on parle de la filière batterie, ben on se concentre surtout sur, justement, comment c'est un secteur qui est névralgique là, pour la transition énergétique, mais on parle pas, en fait, nécessairement des conséquences que ça a au niveau environnemental et climatique, et justement des considérations de justice climatique que la filière batterie peut apporter. Donc, pour commencer, Jeanne, de quoi parle-t-on par filière batterie?
Mais d'abord, quand on parle de la filière batterie, on parle là, de la fabrication de batteries à lithium-ion. Donc, c'est une famille de batteries là, rechargeables qui est principalement utilisée dans les véhicules électriques. Donc, c'est une industrie d'avenir là, qui est très en demande, notamment pour évidemment l'électrification des transports. Donc, on parle principalement là, de batteries à base de lithium. Donc, c'est un métal qui est alcalin, donc conducteur d'électricité. Puis, on choisit là, ce matériau-là parce que habituellement les batteries qui sont faites à partir de lithium sont plus efficaces en termes de capacité de stockage. Ils ont donc un temps de chargement plus rapide puis une meilleure là, durée de vie. C'est aussi un métal là, qui est assez léger, qui est ductile, qu'on peut le travailler. Donc, ça permet de faire des batteries là, légères, peu volumineuses, ce qui est pratique dans l'industrie du transport. Sinon, quand on parle de la filière batterie, ben là, ça va être tous les secteurs qui permettent la création puis le développement là, des batteries précédemment nommées. Donc, autant là, la chaîne de la fabrication de la batterie que là, tous les processus miniers qui sont avant puis le raffinage, là, de même que la fabrication des autres composantes qui ne nécessitent pas nécessairement le lithium directement, mais qui vont accueillir le minéral. Ensuite, ça inclut également les utilisations qu'on fait de ces batteries-là. Donc, la fabrication des véhicules par exemple, tout ce qui est matériel électronique, là, habituellement. Là. Donc, le lithium se retrouve pas juste, évidemment, dans les véhicules électriques, là, mais par exemple, les nouvelles technologies de l'information et tout ça.
Ouais.
Voilà. Fait que quand on parle de la filière batterie au Québec, c'est vraiment d'avoir des entreprises sur le territoire qui s'occupent de chacune de ces étapes-là. Donc, d'être capable là, de faire de A à Z sur le territoire.
Mmh. Donc, justement, la filière batterie est en développement au Québec, mais c'est quand même un secteur là, qui est déjà assez développé à l'international. Donc, à quoi ressemble la filière batterie à l'international? Donc, je me tourne vers toi, Sarah-Jeanne. En fait, c'est quoi le portrait mondial là, de la production de batteries de lithium-ion?
Oui, au niveau mondial, en fait, les plus grandes réserves de lithium se retrouvent en Amérique du Sud. On parle particulièrement du Chili, la Bolivie et l'Argentine, qui sont aussi appelés là, le triangle du lithium, et aussi en Australie. Par contre, c'est vraiment la Chine qui est l'acteur le plus important dans la filière batterie. Donc, de l'extraction minière, qui est comme la première étape, elle exploite plusieurs mines de minéraux critiques en Afrique subsaharienne et convoite aussi beaucoup celles en Amérique du Sud, jusqu'à la fabrication des composantes, jusqu'à la fabrication des cellules de batterie aussi. En fait, les fabricants chinois possèdent 77 % de la production totale de batteries dans le monde. 6 des 10 plus grandes entreprises de fabrication de batteries lithium-ion sont chinoises. Mmh. Vu que c'est un secteur essentiel pour l'électrification du transport, c'est un secteur qui est en extrême croissance. La capacité de production du secteur était de 1163 gigawatts à l'heure en 2022, alors qu'elle devrait être en 2027 de 8945 gigawatt-heure. Vu par contre que c'est une demande croissante, la production actuelle ne réussit pas à combler la demande mondiale. Ça se répercute sur la fabrication des voitures électriques comme en Europe et en Chine, alors qu'ils n'ont plus les capacités nécessaires pour la demande de voitures électriques. Ça crée, en fait, au final, une course de production de batteries dont le Canada et le Québec font désormais partie, mais qui sont aussi en compétition face aux États-Unis et à l'Europe qui veulent à la fois attirer des investisseurs et des entreprises pour développer leur propre filière. Ça reste donc un gros défi pour le Canada et pour le Québec d'attirer les acteurs de la filière face au gouvernement américain qui, lui, met des milliards de dollars pour développer sa filière batterie. Le plus gros défi, c'est que les compagnies de fabrication de batteries ont tendance à s'installer à proximité des usines de fabrication de voitures électriques, ce qui est tout à fait logique, mais ce que le Québec et le Canada n'ont pas encore. C'est pour ça que le Québec et le Canada mettent aussi des milliards dans la filière batterie pour attirer les fabricants de batteries sur leur territoire.
Et donc, ben justement, on voit à quel point les gouvernements le canadien et québécois mettent beaucoup d'efforts pour attirer la filière batterie. Mais pourquoi, en fait, le Québec met autant d'efforts? Pourquoi le Québec veut être un leader là, dans le domaine de la filière batterie? Qu'est-ce que ce secteur-là apporterait concrètement là, au Québec?
Ben d'abord, puisque les batteries lithium-ion vont être essentielles dans la transition énergétique, c'est une opportunité pour le Québec pour qu'il puisse s'adapter puis tirer profit de la transition, donc s'enrichir tout en luttant contre les changements climatiques qui est, là, en ce moment, là, très à la mode dans les politiques climatiques. Donc, en réduisant ces GES, ben, le développement de la filière permettrait aussi de développer le potentiel économique de la province. Évidemment, il y aurait création d'emplois. Là, donc, on s'attend à ce que le secteur de la batterie électrique là, pourrait créer jusqu'à 10 000 emplois d'ici là, 2030. Donc, c'est pas là une somme qui est quand même négligeable. Puis en plus, ben, le Québec compte déjà plusieurs acteurs de la filière sur son territoire. Donc, investir dans le domaine puis aider au développement des connaissances, ça peut aider le secteur existant à s'accroître, à faire des liens aussi, parce qu'en ce moment, il y a comme des chaînons dans la chaîne, la filière qui sont non comblés. Mm-hmm. Puis ça permettrait de devenir compétitif dans le domaine à l'international. Parce qu'en ce moment, là, les entreprises qu'on a en opération dans le transport électrique, vous avez Lyon Électrique, Novabus, Motrec, BRP, Microbird. On est beaucoup dans les usines d'autobus, le camion là, ou le véhicule récréatif électrique. Donc, en plus dans le transport collectif, qui est un secteur dont on va avoir besoin, là, surtout que c'est du transport collectif électrique. Ouais. Puis ces gens-là, ces entreprises-là n'ont pas en ce moment là, toutes les ressources nécessaires pour être le plus profitable possible. Mm-hmm. Sinon, mais le sous-sol du Québec aussi est très riche en minéraux critiques, là, donc les minéraux qui sont essentiels aux technologies de la transition. Donc, on a par exemple le lithium, le nickel, le graphite, le cobalt, entre autres. Puis il y a déjà des exploitations minières en cours là, à ce niveau-là. Donc, on a par exemple Sayona en Abitibi ou Nemaska Lithium aussi, qui sont en train de construire là, une mine dans le nord du Québec.
Mm-hmm. Okay. Mais il y a aussi la question de l'indépendance et de la souveraineté énergétique. Ça nous permettrait de nous libérer de notre dépendance à voir les piles produites principalement en Chine, où les normes environnementales, on sait, sont plus laxistes et opaques, mais surtout de ne pas dépendre d'une puissance étrangère qui n'est pas notre allié pour une ressource aussi importante que le sont les batteries. Mm-hmm. Aussi, ça permettrait d'éviter là, ce qu'on a vécu dans les dernières années avec un événement qui nous coupe des transactions et de la production mondiale comme la COVID-19. Avoir les ressources ici, ça nous permettrait de ne pas affecter la chaîne d'approvisionnement de batteries si jamais un événement du genre arrivait à nous de nouveau. En plus de ça, ça nous permet de faciliter l'électrification des transports dans la province en ayant tous les éléments directement ici. On n'aurait pas besoin de dépendre de d'autres pays. Puis ça serait plus facile de s'affranchir du pétrole puis de faire notre transition. On aurait l'autonomie industrielle et énergétique nécessaire. D'ailleurs, la filière batterie au Québec vise la création de 3 types de batteries. Les batteries pour les véhicules passagers électriques, pour les véhicules commerciaux électriques et pour le stockage d'énergie. Donc, si le Québec investit dans la filière, c'est pour pouvoir contrôler ses propres ressources naturelles nécessaires à la filière, donc le lithium, cobalt, graphite, au lieu que ce soit des entreprises étrangères qui exploitent nos ressources. Le gouvernement peut bénéficier des retombées en investissant et en intervenant directement dans le développement de la filière maintenant.
Mais justement, vu que la filière batterie se concentre vraiment sur le secteur de l'électrification du transport, on sait qu'au Québec, c'est le secteur qui est le plus émetteur, là, où le Québec doit le plus se concentrer. Donc justement, ben, cette question de l'indépendance-là, que le Québec puisse gérer ses propres ressources pour mener à bien là, l'électrification des transports, ben, justement, là, c'est l'objectif qui est souhaité.
Exact.
Donc... En fait, malgré justement les défis de compétition et d'attrait à l'international, comme on a parlé face aux États-Unis ou à l'Europe, on voit quand même que le Québec est quand même considéré comme un attrait là, assez important là, pour la filière batterie. Donc, pourquoi le Québec se démarque-t-il autant pour faire venir et pour attirer les entreprises de la filière batterie?
Bien, le Québec a la possibilité de se distinguer là, de 3 manières pour devenir là, un leader international dans le développement de la filière batterie. La première manière, c'est grâce à des investissements et des efforts en recherche et développement. Donc, le Québec pourrait développer là, une expertise qui est concurrente et appréciée sur la scène internationale, donc en termes là, autant là, d'expertise sur le territoire, mais aussi en développement de main-d'œuvre, formation. Parce que le Québec possède déjà des très bonnes institutions dédiées à la recherche et formation en milieu minier pour le collégial et l'universitaire, particulièrement le collégial avec beaucoup de centres de formation. Mm-hmm. Voilà. Donc, on a aussi le Centre de recherche Hydro-Québec qui se concentre sur la création de batteries, qui est très recherché pour son autonomie et la recherche rapide. Donc, il y a vraiment là un bon vivier au niveau de la formation puis de l'éducation qui pourrait être exploité. Donc, ça pourrait être ça aussi un espèce de produit exportable pour le Québec, donc sa formation, faire venir aussi des gens pour étudier de l'étranger. Donc, c'est une possibilité de développement économique en lien avec ça, mais également de développement d'expertise. Sinon, deuxième manière, c'est l'exploitation puis le développement des minéraux critiques pour la fabrication des batteries qui pourraient être compétitifs à l'international parce que ça offrirait un choix éthique, propre, durable sur le marché. Évidemment, là, il faudrait peut-être resserrer quelques réglementations là, à ce niveau-là. Mais le Québec, c'est sûr, déjà en partant, se démarque par rapport à d'autres producteurs comme la Chine parce qu'on a des standards de production beaucoup plus élevés en termes de production respectueuse de l'environnement, en termes de respect des droits des travailleurs, les normes du travail, juste le fait que ce soit des adultes qui travaillent dans nos mines en partant.
Oui.
Mais c'est ça. Alors, comparé à justement là, d'autres pays comme la Chine qui sont réputés pour ne pas respecter les normes environnementales et ces droits-là. Notamment dans des cas comme par exemple le Congo, où on voit là, toutes les conséquences que ça peut avoir là, de ne pas encadrer une telle production. Donc, le Québec pourrait aussi devenir peut-être avoir, mais un leader en termes de production normative, donc de production de normes, de lois, encadrant là, ce type de production-là. Donc, il y a aussi un potentiel à ce niveau-là de leadership. Okay. Puis, en plus, notre batterie puis nos industries, c'est d'autant plus éco-responsable qu'elles vont être fournies à l'hydroélectricité, contrairement là, à d'autres usines dans le monde.
Parce que c'est quand même un secteur qui est assez énergivore, là, quand même là, pour toutes les étapes. Donc, de considérer que l'énergie qui va être utilisée, ben, c'est de l'hydroélectricité, ça réduit quand même les gaz à effet de serre qui proviennent de ce milieu-là.
Effectivement, parce qu'en ce moment, on crée parfois des technologies pour nous permettre de réduire nos émissions, mais en étant alimentées par les énergies fossiles. Donc,
oui, ça annule un peu.
Le bilan est plus ou moins là, rayonnant à ce niveau-là. Mais sinon, dernière manière, c'est vraiment le recyclage, qui est essentiel à développer. Puis le Québec a vraiment intérêt de le faire pour justement le, avoir là, cette image de producteur minier responsable. Ça lui permettrait aussi d'accroître sa production en offrant des produits recyclés. On a déjà des acteurs qui sont présents au Québec dans ce secteur-là, comme par exemple Lithion Technologies, qui est une entreprise québécoise qui se spécialise dans le recyclage des matériaux des batteries à lithium-ion. Mais c'est vraiment un secteur important à développer parce que ça permettrait d'éviter le gaspillage puis les enjeux face aux déchets qui sont créés par cette industrie-là, par les batteries en fin de vie. Ça permettrait aussi de réduire la demande dans l'extraction minière parce que si on est capable de réutiliser les matériaux, ben on pourrait le mieux gérer la demande qui en ce moment là, explose. Donc voilà, ça pourrait là, vraiment là, dans une optique d'économie circulaire être un impact très positif mm-hmm. pour l'environnement parce qu'on sait là, que l'industrie de la batterie est quand même là, une industrie qui est particulière puis qui a beaucoup de restrictions puis de conséquences là, au niveau de la production mm-hmm. de déchets.
Ouais. Donc ben justement, on va embarquer dans les impacts là, de la filière batterie. Donc, même si on se concentre beaucoup sur le potentiel de développement économique puis sur la transition énergétique du domaine, bien, il y a quand même des impacts là, assez conséquents là, au niveau de l'environnement. Donc, à l'échelle globale, on va commencer là, par les conséquences là, au niveau mondial. C'est quoi les principaux enjeux globaux par rapport à la filière batterie?
Oui, en fait, vu que la création des batteries lithium-ion se base sur des minéraux critiques, il y a clairement un enjeu par rapport à la disponibilité mondiale de ces ressources-là. Est-ce qu'on a des réserves mondiales suffisantes en minéraux critiques comme le lithium pour répondre à la demande de l'électrification des transports, pour fabriquer des dizaines de millions de voitures électriques?
Mm-hmm.
Peut-être pas, c'est quand même une grosse question. En plus, avec la forte demande de lithium dans les dernières années, le prix de la tonne est passé... Écoutez ça, est passé de 4 450 $ en 2012 à 78 000 $ en 2022. Là, c'est une hausse énorme en 10 ans.
Mais ça représente justement l'explosion qu'il y a eu dans le domaine, mais aussi genre la manière que c'est difficile à contrôler cette demande-là. Puis là, ça crée justement des impacts là, qui sont beaucoup plus gros, juste par rapport aux tensions... avec la demande en tant que telle, mm-hmm. puis l'offre qu'on n'est pas capable d'équivaloir, là, d'à côté.
Exactement, puis ça, je pense pas que ça va s'arrêter de si tôt non plus. Là, les prix augmentent, puis c'est pas fini. Mm. Donc là, on s'entend, cette raréfication des ressources là, peut alimenter des tensions au niveau économique, mais aussi au niveau géopolitique et local. On voit d'ailleurs déjà des tensions entre les compagnies minières qui augmentent leur production pour faire face à cette demande-là, envers les populations locales et autochtones face à l'utilisation de l'eau potable dans ces endroits-là. Bien entendu, l'extraction minière consomme énormément d'eau dans les phases d'extraction, de traitement des minerais et pollue énormément les sols et les cours d'eau par le déversement de substances et le drainage mmh. acide. Donc, on voit des tensions locales qui augmentent, comme en Argentine, alors que les populations veulent protéger leur eau potable, mais aussi au Chili, où des batailles juridiques ont lieu pour dénoncer l'épuisement de l'aquifère, ce qui retarde les projets miniers. Mmh. En plus de détruire l'écosystème, l'extraction détruit le mode de vie des populations autochtones qui y vivent. Ça se fait pas sans conséquence, cette extraction-là. Les nappes phréatiques qui sont siphonnées par l'extraction les privent de leur eau potable, mais cette eau-là a une signification qui, en plus, est culturelle et spirituelle, mmh. qui est une source de vie pour ces communautés-là. On voit la même chose, en fait, au Pérou, la rareté de l'eau et les investissements miniers augmentent le risque de conflit dans la région, alors que 16 des 21 fleuves les plus contaminés dans la région sont causés, cette contamination-là est causée par l'activité minière. Par rapport à cette pollution et à cette contamination-là, les exploitations minières ont clairement un effet destructeur sur les écosystèmes et la biodiversité. En fait, les impacts de l'extraction minière pourraient dépasser celles qui sont évitées par l'utilisation d'énergies renouvelables. Donc, ça pourrait annuler les efforts des autres mesures d'atténuation. C'est pas rien.
Mm-hmm. Non, effectivement.
Effectivement, puis il existe le même problème de destruction environnementale avec l'extraction, par exemple, du nickel, du cobalt aussi, qui sont des alternatives au lithium, mais aussi là, d'autres minéraux qui sont utilisés notamment dans les les TIC, donc les technologies de l'information et de communication. Puis un cas horrible, c'est celui de la République démocratique du Congo, où il y aurait 70 % de la production mondiale du cobalt. Non seulement le cobalt, c'est cancérigène, puis ça pollue les réserves d'eau et les terres agricoles par le déversement de produits toxiques, mais face à la hausse de la demande pour ce métal-là, la Chine a pris possession de la plupart des mines de la région et depuis son arrivée, le respect des droits humains et de l'environnement se sont extrêmement détériorés. Là, il y a eu une augmentation des mines artisanales qui sont particulièrement dangereuses puisque non encadrées et avec des infrastructures hautement déficientes. Mm-hmm. Mais sinon, il y aurait dans ces mines-là au-dessus de 250 000 Congolais qui y travaillent, notamment des enfants, parce qu'il n'y a pas de réglementation là, sur les droits. Puis finalement, dans ces mines, les travailleurs n'ont pas accès là, à de la protection, du matériel nécessaire, puis les pratiques d'extraction sont extrêmement dangereuses. Donc, c'est des milieux là, qui mettent à mal leur propre santé. Là, tout ça pour, évidemment, alimenter habituellement les pays développés.
Oui, c'est ça. Encore une fois.
Encore une fois.
Justement, on voit que les retombées économiques de cette extraction-là, premièrement, c'est des compagnies étrangères qui vont aller exploiter ces ressources-là. Il n'y aura pas de retombées pour les populations locales. Souvent, on ne les prend pas en compte. Justement, comme on le voit avec les exemples que vous venez de dire. Et encore une fois, c'est les populations les plus vulnérables déjà qui sont les plus affectées par justement les conséquences de cette globalisation-là puis cette demande-là. Donc, au niveau culturel, au niveau de la santé aussi, mais au niveau environnemental, donc ça détruit leur milieu de vie. Donc, justement, là, on s'est concentré vraiment sur l'extraction minière en tant que telle, mais il y a quand même des effets aussi par rapport aux autres là, étapes de la fabrication des batteries. Et justement, au Québec, on veut se concentrer, on va se concentrer sur l'extraction minière, mais aussi sur ces autres étapes-là, là, donc la fabrication des cellules, des voitures électriques. Et donc, justement, on a un peu des... pas les mêmes effets, pas à la même échelle, mais on a quand même des effets, des impacts néfastes par rapport à cette filière-là au Québec. Donc, on en a entendu plusieurs là, pour le projet Northvolt, mais en fait, c'est quoi les principales critiques par rapport au développement de la filière batterie au Québec?
Oui, en fait, au Québec, c'est sûr qu'on a des normes environnementales et sociales plus serré. Par contre, ici aussi, l'extraction minière a des conséquences environnementales sur les territoires. Les mines de lithium à ciel ouvert qu'on voudrait développer au Québec, c'est pas tout le monde, là, mais que certains et certaines voudraient développer.
Le gouvernement, on va dire.
Exactement, exactement. Ça va nécessairement avoir des impacts sur la déforestation et sur la destruction d'écosystèmes et de milieux humides. Il y a des communautés locales qui sont aussi affectées par ces projets, surtout, encore une fois, des communautés autochtones. Par exemple, on peut penser à la mine de lithium de Sayona en Abitibi, qui menace les cours d'eau et les milieux humides du territoire convoité et les activités traditionnelles de la Première Nation Anishinaabe et de Long Point, comme la pêche, la chasse et la récolte de plantes. Au départ, en plus, la mine Sayona n'avait pas à se soumettre au BAP, mais vu les demandes de la communauté, la compagnie a accepté de traverser le processus. Une autre communauté autochtone, les Cris de Nemaska dans la région Iyu-Ishtim Bay James, sont aussi affectés par le projet de la mine Wabushi par Nemaska Lithium. En plus de possiblement aggraver la contamination de leur cours d'eau, qui est déjà contaminé par du mercure à cause des projets hydroélectriques d'Hydro-Québec, la mine éliminerait un lac et un ruisseau. 10 espèces de mammifères, comme le carcajou ou le caribou forestier, seraient menacées par la perte de leur territoire.
Ouais, le caribou forestier, encore.
Encore une fois, ça arrête jamais. Là, c'est...
Donc, il y a beaucoup aussi de critiques qui ont été mises de l'avant depuis l'annonce de Northvolt. D'abord, à cause que le projet échapperait au BAP, même si la méga-usine détruirait 74 milieux humides, qui sont des tampons naturels importants là, pour prévenir les inondations, qui sont un problème d'autant plus d'actualité en ce moment. Oui. Les sécheresses, puis réguler les débits d'eau, mettraient aussi en péril l'habitat de 65 espèces d'oiseaux. Et plusieurs critiques, surtout le manque de transparence du gouvernement, parce que les règlements qui précisant quel type de projets doivent passer au BAP ont été modifiés quelques mois avant l'annonce. Donc, plusieurs pensent que les changements ont été faits pour favoriser Northvolt ou bien d'autres projets de la filière batterie dans le futur. Ce qui est d'autant plus là un peu troublant parce que certains critiquent aussi le fait que la subvention de 7 milliards là, du gouvernement Legault, elle est attribuée à une multinationale étrangère, donc au détriment de compagnies québécoises qui essaient de se développer sur le territoire et qui habituellement sont beaucoup plus faciles à encadrer puisqu'elles ont leur siège social ici. Donc, bien que Norvolt là, devrait créer environ 4000 emplois, on critique le fait que ce genre d'implantation d'entreprise aggrave la pénurie de main-d'œuvre, affectera de manière disproportionnée les PME québécoises, mm-hmm. qui vont être pénalisées du fait de ne pas avoir eu l'obtention là, de ces fonds-là puis de ces contrats. Puis en plus, ça va aggraver la crise du logement, puisque les régions dans lesquelles les projets s'implantent, donc les municipalités, soit le McMasterville ou Bécancour avec Nemaska Lithium, mais elles n'ont pas les infrastructures nécessaires pour accueillir autant de personnes rapidement, pas assez de logements. Puis elles vivent déjà là, les effets de la crise actuelle. Donc, c'est de mettre là, une pression énorme sur des municipalités qui en ont déjà beaucoup à faire.
Exactement.
Ouais, d'ailleurs, concernant les BAP, il y a plusieurs projets de la filière batterie dès maintenant qui ont même pas besoin d'être soumis au BAP, l'analyse du Bureau d'audience publique sur l'environnement, là, pour ceux et celles qui connaîtraient moins ça. On dirait que ces compagnies, ils ont, au nom du développement énergétique de la province, ont droit à des passe-droits, peuvent se permettre de faire des choses que d'autres compagnies n'auraient pas le droit de faire. Un argument utilisé est que l'extraction et la transformation est mieux encadrée, plus respectueuse de l'environnement et des populations au Québec comparativement à d'autres pays. Peut-être.
Ouais.
Mais est-ce que ça justifie quand même la destruction de milieux naturels et de territoires ancestraux, et ce sans même évaluer les risques au préalable?
Effectivement. Puis justement, ben, il y a toute cette question-là de transparence aussi du gouvernement. Et donc, on voit un peu de côté là, par rapport à tous les processus démocratiques aussi, puis la population a le droit d'avoir des informations là, par rapport à ce développement-là. Et justement, on a l'impression que les compagnies privées puis le gouvernement, le cache un peu là, à la population. Donc, en fait, là, le but de l'émission, c'est pas de dire que c'est complètement mal puis qu'il devrait pas avoir de développement de la filière batterie au Québec, mais c'est vraiment pour représenter la vision technocentriste là, qui est actuellement valorisée par le gouvernement. Donc, en fait, c'est comme si la transition énergétique se fait vraiment grâce à la technologie et en fait, il faut juste se concentrer sur trouver des nouvelles sources, des nouvelles technologies. Et en fait, la transition énergétique, c'est comme si elle passait pas par la réduction de notre consommation. Et justement, ben la transition énergétique puis la réduction des gaz à effet de serre, ça passe pas par l'exploitation de nouvelles technologies, ça passe aussi par notre réduction de notre consommation d'énergie, mais aussi dans nos changements là globaux de notre consommation, mais aussi dans nos modes de transport. Et donc se concentrer juste sur la filière batterie, ben on ça nous empêche de se concentrer sur autre chose. Donc, c'est vraiment juste pour qu'on soit au courant de un peu tous les impacts et toutes les conséquences qui peuvent avoir un lien avec la filière batterie. Donc, c'est tout pour l'émission. Merci beaucoup, Jeanne et Sarah-Jeanne, pour la présentation de la filière batterie au niveau mondial, mais aussi au Québec. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode, justement, qui portait sur cette filière batterie. D'ici à notre prochain épisode, vous pouvez toujours nous contacter sur notre page Facebook, Dans la mire climatique, ou à notre adresse courriel info@commercialdanslamireclimatique.ca si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt! We'll be right back.